Prédication prononcée lors du culte de la session du synode de Lérène le 1er décembre 2021. Lecture biblique, le premier texte, le texte de prophète Jérémie au chapitre 1. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour toutes les nations. Et je dis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne, je suis avec toi pour te libérer, oracle du Seigneur. Le Seigneur, avançant sa main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations, et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. Au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, nous lisons « Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. » Je me tais. Est-ce que un homme souhaiterait prendre ma place pour la prédication? Non? Bien, alors, si vous y consentez, je prends la parole. L'espace si cher et si prisé de la parole, je m'en empare, si vous le voulez bien, en cherchant de mon mieux à poser des mots dont, si Dieu le veut, émergera peut-être du sens pour vous, du sens pour nous. Si j'ai choisi pour le culte de ce matin la vocation du prophète Jérémie, c'est parce que c'est un texte qui me tient à cœur et qui revient à moi régulièrement. Il y a une quinzaine d'années de cela, le président de la commission de consécration d'alors, Robert Tolk pour ne pas le nommer, m'avait assigné ces quelques versets pour mon audition devant la commission. Il avait sans doute été inspiré car depuis, ce début du livre de Jérémie me colle au basque. Qui suis-je pour porter haut la parole de Dieu dans le monde? Une question que je me pose régulièrement. Qui suis-je moi individuellement et qui sommes-nous, nous, en tant qu'Église pour y prétendre? Voilà le problème. Nous sommes atteints de ce méchant syndrome d'infériorité. En Église, nous ne cessons de nous excuser d'être là. Comme Jérémie, qui se sent trop jeune, pas adéquat, pas capable. Il craint de ne pas être écouté, de ne pas être légitime. Pourtant, choisi et envoyé par un Dieu qui voit, au-delà du jeune homme timide, l'homme et le prophète qu'il va devenir. Dans la société sécularisée, nous ne nous sentons plus légitimes. Héritier d'un temps passé, peut-être en partie fantasmé, dans lequel l'Église avait son mot à dire, nous craignons aujourd'hui de desserrer les dents ailleurs que dans nos petits cercles bien protégés. Mais qu'a fait l'Église de la parole lorsqu'on lui en donnait l'espace? A-t-elle mis à profit la tribune qui était autrefois la sienne? Pas toujours, je crois. Il faut l'admettre, l'Église a beaucoup utilisé l'espace de la parole pour chercher à moraliser la société. Un discours strict sur les mœurs, sur le sens du devoir, sur les interdits. Voilà ce à quoi s'est longtemps résumé le discours religieux. Le rejet actuel de l'Église est aussi le fruit de cette volonté de moralisation. Il est bien triste que ce ne soit là que ce que beaucoup retiennent du message chrétien, mais peut-être devons-nous nous en prendre à nous-mêmes. Peut-être est-ce aussi un peu pour cela que nous peinons tant à porter haut la parole. La peur d'être associé à cette image-là de l'Église, à cette vision du christianisme dans laquelle nous ne nous retrouvons pas. Mais sommes-nous encore fiers du message que nous portons? Sommes-nous toujours convaincus de la pertinence et aussi de l'impertinence de l'Évangile pour nos contemporains? Va, dit Dieu à son prophète, va où je t'envoie et n'aie peur de personne, je suis avec toi pour te libérer. Dieu libère de ses peurs celui, celle, qui va porter la parole en son nom dans le monde. Voilà une bonne nouvelle. Voilà un encouragement à empoigner courageusement notre bâton de pèlerin. Mais comment s'y prendre? C'est bien là tout ce qui vous occupe aujourd'hui, vous, les députés au synode. Tout ce qui préoccupe notre Église actuellement. Le défi véritable pour les années à venir et pour aujourd'hui déjà, comment proclamer l'Évangile dans le monde actuel? Et il n'y a pas d'autre question que celle-ci derrière tous les débats de cette session du synode. Même le budget. Le budget, ce n'est rien d'autre que de chercher à accomplir au mieux notre mission dans le cadre défini des ressources qui sont les nôtres. Les questions d'argent, de salaire, d'adéquation au monde du travail sont parfois regardées de haut, comme si nous étions au-dessus de ces choses bien terre à terre. Mais les questions financières sont éminemment spirituelles, car derrière les chiffres, il y a toujours des personnes, une communauté, une vision d'Église. Et tout se joue fondamentalement dans notre rapport au monde. C'est bien sûr un peu par provocation que j'ai demandé à Anne-Pascal de nous lire ces deux versets du chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Un chapitre qui d'ailleurs est presque entièrement consacré à l'exhortation de Paul à préférer quelques paroles claires de proclamation, paroles prophétiques, aux interminables expériences extatiques de parler en langue. Quelle Église voulons-nous être dans le monde d'aujourd'hui ? Une Église qui invente de nouvelles formes pour dire la bénédiction de Dieu aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui ? Une Église qui invente de nouvelles formes de bénédiction pour dire aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui dans leur réalité conjugale la bénédiction de Dieu ? Une Église qui prend acte de la réalité du travail ? Une Église qui se met en retrait du monde ? Une Église qui parle pour elle-même ? Une Église qui se parle à elle-même ? Et qui se complaît dans son petit monde. Je me souviens que pendant mes études, c'était à la mode de dénoncer le patois de Canaan dans les prédications et dans la liturgie. On était rendu attentif au fait que l'Église parlait un langage que plus personne ne comprenait, ou alors seulement les initiés. Il n'y a plus trop de réminiscences de ce patois de Canaan dans nos cultes, me semble-t-il, mais l'Église parle-t-elle pour autant le langage du monde d'aujourd'hui ? Au-delà du champ lexical, parlons-nous réellement des préoccupations actuelles? Des vrais sujets qui questionnent les types qui sortent du bureau et vont boire l'apéro le jeudi soir avec les copains? Des réels soucis des parents qui se sentent démunis face à leurs ados? Des gens qui ont perdu leur travail? Ou des gens qui ont vécu de plein fouet une remise en question existentielle au moment du confinement? Est-ce que pour ces vrais gens-là, nous ne parlons pas un peu en langue? C'est dans l'ADN de l'Église réformée que d'être aux prises avec le monde, avec la réalité prosaïque et locale, avec les vrais gens et pas avec les théories. C'est là le cœur de notre Église et c'est pour cela que c'est l'Église que j'aime et que ne serai pas prête à en servir une autre. À la différence de nos frères et sœurs catholiques qui ont fait le choix d'insister sur l'universalité, au déprimant parfois des spécificités locales ou sociétales, à la différence de nos frères et sœurs évangéliques qui ont fait le choix d'insister sur une certaine pureté évangélique, avec la tentation parfois d'opposer l'Église au monde ou de s'en retirer, nous les réformés, nous avons choisi de proclamer l'Évangile dans le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui n'est pas le même à Séoul qu'à Mialet, qui n'est pas le même à Zurich, à Moudon ou à Neuchâtel, puisque le statut de nos églises est différent, que les réalités sociales ne sont pas les mêmes, et que les individus sont par définition toujours uniques. Notre mission de protestants réformés neuchâtelois est bien d'accomplir au mieux notre mission de porter la parole de Dieu dans un canton fortement sécularisé, dans lequel l'Église est séparée de l'État et qui a toujours mal au porte-monnaie, mais dans un canton aussi dans lequel nous avons de bonnes relations avec les autorités civiles et dans lequel la population a plutôt une sympathie de base pour nous. L'Église n'est pas le royaume de Dieu sur terre. Notre mission n'est pas de la sauver, elle, mais bien d'œuvrer pour le Christ. Pourtant, il se trouve que jusqu'à présent, elle est le moins mauvais moyen que nous ayons trouvé pour organiser ou pour nous mettre au service de cette parole. Donc, il convient d'en prendre soin. D'en prendre soin et de la réformer. D'en adapter ses structures pour qu'elle puisse être, demain, le meilleur outil. La fidélité à des valeurs qui traversent les temps et les lieux ne doit pas se traduire dans un conservatisme qui ne cherche au fond qu'à préserver une forme d'Église qui a été autrefois, mais qui ne correspond plus aux aspirations actuelles. Vouloir maintenir des structures du XIXe ou du XXe siècle n'est pas la fidélité, c'est l'illusion de la fidélité. C'est se tromper d'objet et chercher à sauver la forme plutôt que de se recentrer sur le fond. Il ne faut pas se faire trop d'illusions, la vie d'Église n'est pas un long fleuve tranquille, et la vie des prophètes non plus. La vie du prophète du jeune Jérémie ne s'annonçait pas tout simple. Il nous a laissé tout un livre de ses jérémiades pour nous en souvenir. Les missions que Dieu lui confie se résument en 6 verbes, et sur ces 6 verbes, les 4 premiers sont plutôt rudes. Déraciner, renverser, ruiner et démolir. Puis viennent les 2 suivants, bâtir et planter. Tout un programme. Pour les débats de cet après-midi, sortez outils, beiges et binettes, vous les maçons et les jardiniers de notre Église. Et soyez assurés de la reconnaissance de toute notre Église pour vos travaux. Et que la peur ne vienne jamais orienter les débats, car Dieu libère de ses peurs celui et celle qui va porter la parole en son nom dans le monde. Être aux prises avec le monde, ce n'est pas par dépit, c'est notre choix. C'est notre mission. Parfois s'adapter, parfois résister, parfois interpeller, toujours dialoguer. C'est notre proclamation. Amen.